France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Notre santé va nous coûter plus cher l'an prochain. Les mutuelles rehaussent leurs tarifs de 4% et cela avant même la taxe d'un milliard d'euros prévue dans le budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain. Explication à suivre. La crise agricole, le Premier ministre reprend le dossier en main. Réunion à Matignon ce matin. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour Jérôme.
Et Sébastien Lecornu va recevoir les syndicats.
Oui, c'est l'une des annonces faites par le Premier ministre à l'issue de près de 2 heures de réunion à Matignon ce matin. En plus de cela, il veut, dit-il, accélérer la stratégie vaccinale reprise en main politique par Matignon ce matin donc, après quelques jours de flottement politique sur cette crise.
A tout de suite pour vos précisions. À suivre encore le procès du cimentier Lafarge, soupçonné d'avoir financé des groupes terroristes en Syrie. Bonjour Charlotte Piret.
Et bonjour.
Début du réquisitoire ce matin.
Oui, première moitié d'un réquisitoire prévu pour durer 6 heures et qui vise à démontrer comment Lafarge a versé des millions d'euros à des groupes terroristes par simple intérêt commercial.
On va vous retrouver dans les prochaines minutes. À suivre encore le bras de fer Mbappé-Paris-Saint-Germain. La décision du tribunal des prud'hommes attendue dans les prochaines minutes. Comment l'Ukraine a réussi à détruire un sous-marin russe grâce à l'un de ses drones dans un port de la mer Noire. Et puis le loup d'Intermarché, le héros de sa pub de Noël que l'enseigne voudrait maintenant fabriqué en série, mais ça n'est pas si simple. À partir de 13h30, on détaille la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'automobile. Fini le passage au 100% électrique en 2035. Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les communes qui vendent du matériel pour renflouer leurs comptes, ça s'appelle des vides-mairies. Et Cyril Petit du journal Ouest France va nous l'expliquer. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Christelle Tual demande le chanteur Christophe à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce ne sont pas les plus 6% de l'an dernier. Mais tout de même, les tarifs des mutuelles vont encore grimper l'an prochain, plus 4% en moyenne, et on est toujours largement au-dessus des hausses que l'on connaissait avant le Covid. Alors ça ne va plaire ni aux assurés, ni au gouvernement. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Comment la mutualité française se justifie-t-elle ?
On n'a pas le choix, explique en substance l'organisme qui représente les mutuelles. Il faut prendre en charge des frais de santé toujours plus importants. Séverine Salgado est la directrice générale de la mutualité française.
Nous prenons en charge cette augmentation continue des dépenses de santé. Ça, c'est lié au vieillissement de la population et aux innovations technologiques. L'estimation des dépenses de santé, d'augmentation des dépenses de santé pour 2026, c'est entre 4,5 et 5 %. Et donc, nous ajustons au plus près les augmentations de cotisations.
Et Séverine Salgado de rappeler aussi que les mutuelles ne peuvent pas s'endetter, elles doivent finir l'année à l'équilibre.
Dans le budget de la Sécu qui doit être définitivement voté cet après-midi à l'Assemblée, les mutuelles vont être taxées, 1 milliard d'euros supplémentaires. Est-ce que ça explique aussi une partie de cette hausse ?
Alors ce matin, dans son communiqué de presse, la mutualité française a vivement dénoncé ce qu'elle qualifie de TVA sur la santé, qui, je cite, sera mécaniquement supportée par les assurés en bout de chaîne. Mais ce midi, la directrice générale de l'organisme tempère. Pour l'instant, assure-t-elle, cette surtaxe n'est pas prise en compte dans la hausse des tarifs annoncée. On a du mal à y voir clair. Il faut dire que le sujet est très sensible, hein, car dans le budget de la Sécu, les parlementaires ont bien pris soin de écrire noir sur blanc, la contribution demandée aux complémentaires ne doit pas se répercuter sur les cotisations des assurés, même si c'est un vœu plus qu'une vraie contrainte, car le législateur ne peut pas intervenir sur la fixation des prix.
Merci Alexis Morel. Toujours côté pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui qu'est versée la prime de Noël pour un peu plus de 2 millions de foyers français les plus modestes. Une personne seule touche 152 euros, 320 euros pour un couple avec deux enfants par exemple. Et cette prime est particulièrement bienvenue pour Marie et sa famille, rencontrée à Amiens par Nicolas Fillon.
Marie travaillait dans la restauration avant d'être licenciée.
Je suis employée en insertion.
La voilà désormais femme de ménage.
Là, je viens de commencer, donc du coup, j'ai plus droit au chômage. Je touche 300 euros de salaire pour le moment, donc ça aide aussi d'avoir cette prime.
Prime de Noël que la jeune femme va toucher pour la deuxième fois de sa vie. Le montant s'affiche depuis le site de la CAF qu'elle consulte sur son téléphone.
Voilà. 274,41 €.
Avec son compagnon, elle élève un enfant de 9 ans et cette prime de Noël va lui permettre
de acheter des jouets pour mon fils et passer un bon réveillon de Noël.
Cette somme, Marie y tient pour au moins faire plaisir à son garçon car les temps sont durs, les sacrifices aussi.
Si on peut faire un seul repas par jour, nous adultes, c'est déjà bien.
Et quand le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, déclare ne pas être certain que la France puisse avoir les moyens de poursuivre ses politiques de générosité maximale en parlant de la prime de Noël, Marie s'insurge.
Mais je suis pas d'accord. Parce que les loyers, c'est très cher, l'électricité aussi, donc c'est indu. Si la CAF lui dit de vous avez le droit à cette prime, ben, tant mieux.
Le versement de la prime de Noël est automatique, aucune démarche n'est à effectuer.
Reportage ici Picardie. La rencontre entre syndicats agricoles et la ministre de l'Agriculture hier soir à Toulouse n'a pas calmé les tensions. Autour de la dermatose nodulaire, la ministre a proposé aux éleveurs d'Occitanie de dialoguer directement avec des scientifiques au sujet de la lutte contre la maladie et notamment la mesure de l'abattage systématique des troupeaux dès le premier cas, ce qui ne les a manifestement pas convaincus. Il y a toujours des blocages ce matin sur les routes et autoroutes. La 9 à Nîmes, la 89 en Dordogne, la 64 en Haute-Garonne, la 63 à hauteur de Sestas au sud de Bordeaux, mais aussi sur les rails. L'axe ferroviaire Toulouse-Narbonne très perturbé, la ligne Toulouse-Auch interrompue. Voilà la carte que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait sous les yeux ce matin. Julien Nenni, il a réuni le Premier ministre à Matignon, les ministres et les préfets qui sont concernés par cette crise. Qu'est-il ressorti de cette première réunion ?
Alors Jérôme, avant tout, un gros coup de pression politique du Premier ministre à l'attention du gouvernement, des administrations et des préfets sur le terrain. Avec une première demande, vacciner plus et plus vite et décliner cette stratégie selon les spécificités de chaque département frappé par la crise. Objectif, protéger coûte que coûte les éleveurs, selon le mot de Sébastien Lecornu. Mais pour vacciner plus, et c'est la deuxième demande, encore faut-il des doses, c'est l'un des nœuds du problème. Le Premier ministre veut garantir aux éleveurs un nombre de doses suffisant et réclame donc des propositions aux acteurs concernés et vite. Une nouvelle réunion est prévue à 17h30 aujourd'hui pour faire le point sur ce sujet. Mais aussi sur la dernière demande de Sébastien Lecornu ce matin, un plan de repeuplement des cheptels décimés en Occitanie. Façon donc pour le Premier ministre de reprendre la main politiquement sur cette crise agricole après avoir laissé sa ministre Annie Jeune Var en première ligne médiatique ces derniers jours, avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, Sébastien Lecornu doit aussi recevoir dans la semaine les différents syndicats agricoles avec un espoir, calmer la colère de la profession et ne surtout pas laisser la crise déborder sur 2026.
Merci Julien Nenni. Difficulté supplémentaire pour le Premier ministre. Les syndicats qu'il aura face à lui sont divisés. Les syndicats Coordination Rurale et Confédération Paysanne mènent la fronde, mais de l'autre côté, la FNSEA, syndicat majoritaire, ne s'associe pas officiellement à ce mouvement. Illustration en Isère, où un rassemblement est prévu cet après-midi à Bourgoin-Jallieu. Mathilde Cariou.
Pour Nicolas Trénard, éleveur aux Côtes d'Arrée, pas d'hésitation, il faut abattre dès le premier cas. Il y a quelques mois, son troupeau était placé sous surveillance après un foyer détecté dans le Rhône.
On voit bien que l'abattage de ce troupeau qui était infecté a permis quand même d'éviter que ça se propage aux voisins, quoi.
Depuis, ces 150 vaches sont vaccinées.
C'est quand même stressant parce qu'on ne sait pas si même des vaches vaccinées ne peuvent pas contracter la maladie.
Lui regrette le manque de sérieux de certains éleveurs qui déplacent leurs troupeaux et mettent les autres en danger.
Quand ces gens se permettent de faire n'importe quoi et que derrière ils doivent abattre leurs animaux parce qu'ils ont des cas dans leurs troupeaux, et ben c'est bien fait pour eux, j'ai envie de dire.
Le problème, c'est l'échelle, déplore Thierry Boiron, président de la coordination rurale de l'Isère.
Une bonne partie des éleveurs me disent non, mais attends, on va pas abattre tout un troupeau parce que t'as deux vaches malades.
Pour lui, la solution, c'est l'abattage partiel, n'euthanasier que les vaches contaminées et élargir au maximum la couverture vaccinale.
Explication ici, Isère. Là, il y a en revanche unanimité contre. Et c'est l'autre volet de cette crise agricole, celui de l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. Les 27 pays de l'Union européenne doivent approuver cette semaine à la majorité qualifiée ce traité. Emmanuel Macron, lui, s'y oppose, mais il est un peu seul en Europe. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Le Parlement européen vient de se prononcer sur les clauses de sauvegarde, sur les protections renforcées pour les agriculteurs, et le Parlement européen vient de les adopter.
Absolument, à une confortable majorité. 431 voix pour, 161 contre. Dans les mesures approuvées donc ce midi dans le but de vaincre les réticences principalement françaises, il y a la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels accordés aux produits du Mercosur si on constate une trop forte augmentation des importations ou une déstabilisation des prix qui baisserait de manière trop importante sous l'effet d'importations trop massives. Le Parlement européen a musclé également les propositions de la Commission en termes d'enquête. Si jamais un dysfonctionnement a été constaté, ces enquêtes pourraient se déclencher dans un délai raccourci de 3 à 2 semaines en cas d'anomalie constatée et elles ne devront que durer que 2 à 4 mois contre 6 mois envisagés initialement. Voilà, ce sont des curseurs assez techniques, mais très importants aux yeux des représentants notamment français, des agriculteurs. Reste à voir quelle sera la réponse apportée dans les prochains jours. Tout cela, donc, ce sont les clauses sur lesquelles vient de voter le Parlement. La Commission apporte par ailleurs d'autres garanties supplémentaires, notamment une hausse des contrôles à l'étranger dans les pays du Mercosur dans les 2 ans qui viennent, plus de contrôles sur la production et une augmentation de 33% des audits aux postes frontières de l'Union européenne pour s'assurer que les États membres effectuent les inspections conformément aux exigences européennes.
On verra si toutes ces garanties finissent par convaincre les pays les plus réfractaires, notamment la France, de l'utilité de ce Mercosur. Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. Vous nous parliez de la Commission, Fabien. Elle doit aussi dévoiler cet après-midi sa nouvelle feuille de route pour l'automobile. Abandonner, a priori c'est la décision qui sera annoncée, abandonner le tout électrique pour 2035 et donc autoriser certains véhicules thermiques en vente neuve au-delà de cette date. Ce sont les constructeurs allemands, entre autres, qui font pression et ce serait une erreur au regard des investissements qui ont été faits ces dernières années dans cette filière, estime Diane Strauss, c'est la directrice de l'ONG belge Transport et Environnement.
Le risque est d'être complètement dépendant soit du pétrole russe et américain, soit des technologies de batteries chinoises. Parce que comme la Chine a beaucoup d'avance, elle produit maintenant des batteries qui sont très performantes et qui sont peu chères, qu'elle essaye de vendre en Europe. Donc si l'Europe veut à la fois rattraper son retard et aussi sécuriser un certain socle d'investissement, de financement dans la batterie, il faut un message très clair pour les investisseurs. Et ça, pour le moment, l'Europe n'est pas en capacité de le donner. Et c'est critique que l'Europe trouve sa place et possède cette technologie pour pouvoir avoir une certaine autonomie stratégique dans cette course.
Diane Strauss de l'ONG Transport et Environnement et on en reparle à 13h30 avec notre invité, le ministre français délégué à l'industrie Sébastien Martin. J'attends vos appels 01 45 24 7000. Là, il s'agit de fabriquer une peluche en quelques semaines, mais pas n'importe comment. Le fameux loup d'Intermarché, la star de la vidéo de Noël publiée il y a quelques jours et qui totalise déjà des centaines de millions de vues. L'enseigne de grande distribution voudrait le proposer, ce loup, à ses clients, mais fidèle au message de la vidéo, elle veut le faire en respectant un certain nombre de valeurs, donc sans le faire produire en Asie. Et Agnès Soubiran, ça n'est pas évident.
Pas simple, non, car Intermarché veut fabriquer les peluches en France ou en Europe. Or, il n'y a plus qu'un seul industriel dans l'Hexagone. Doudou et compagnie et ses 3500 m² d'atelier près de Vitré, en Bretagne. Alain Joly, le PDG, a déjà l'expérience des fridges pour les Jeux Olympiques. 1000 pièces fabriquées par jour, mais après un long travail en amont.
Si on veut anticiper une opération comme pourrait être le loup, c'est plus de 6 mois. Entre le prototypage, la recherche de matière, la mise aux normes des produits, c'est plus de 6 mois.
Après cette longue étape de préparation, vient le temps de la production, forcément plus coûteuse.
Vous avez un coût de production qui est 7 fois plus élevé qu'en Asie. Alors on a la possibilité en France, on a des gains de productivité, on a des choses où on peut, mais c'est automatiquement plus cher. Après, c'est une volonté. J'ai senti dans le discours de Thierry Cotillard les mêmes propos. Après, il faut avoir l'engagement d'aller au bout et engager le consommateur à payer un peu plus cher son produit.
Un peu plus cher, c'est 25 à 35% supplémentaires tout de même. Alors, il existe d'autres fabricants en Europe, notamment en Allemagne, où il y a une tradition de peluches haut de gamme. L'objectif d'Intermarché est de viser Noël 2026, en espérant que l'engouement ne sera pas retombé. En attendant, attention au faux site Intermarché qui vous propose d'acheter cette peluche loup qui n'existe pas à l'heure actuelle.
Précision d'Agnès Soubiran, l'enseigne Grand Frais va passer sous giron américain. Le géant français de l'investissement Ardian propriétaire du groupe ProSol, qui lui-même possède Grands Frais. J'espère que vous suivez. Ardian va céder ce groupe au gestionnaire américain Apollo. ProSol est basé à Chaponnet dans le Rhône, emploie 10 000 salariés et possède près de 450 magasins, dont une très grande majorité sous l'enseigne Grands Frais.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Divorcé, cela coûte cher. Divorcé dans le foot, cela coûte très cher. Le Conseil des Prud'hommes de Paris vient de rendre sa décision dans le litige qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'attaquant des Bleus a signé son ancien club pour 3 mois de salaire et de primes non versées juste avant son départ pour le Real Madrid. C'était à l'été 2024. Il réclamait 55 millions d'euros, c'était le montant du préjudice. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour Jérôme.
La décision vient d'être rendue en faveur du joueur.
Eh oui, dans ce divorce, c'est Kylian Mbappé qui sort vainqueur puisque le Conseil de Prud'homme de Paris vient en effet de rendre sa décision et le PSG est condamné à verser une somme approchant les 60 millions d'euros aux joueurs désormais du Real Madrid. 60 millions d'euros, c'est un peu plus que le montant du litige, hein, de ces 3 mois de salaire et de primes non versées, mais c'est beaucoup moins néanmoins que les 263 millions que réclamait à l'origine Kylian Mbappé, qui ajoutait à ses demandes celles de licenciement sans cause réelle, de requalification de contrat, de CDD en CDI. Tout cela, le Conseil des Prud'hommes ne l'a pas pris en compte. Il se contente donc de donner raison à Kylian Mbappé sur les 3 mois de salaire et de primes non versées. Mais c'est tout de même le PSG qui sort perdant de cette audience, puisque le PSG, qui lui réclamait 440 millions d'euros en contre-attaque, eh bien, est débouté de toutes ses demandes par le Conseil de Prud'homme. Le PSG qui est également condamné à devoir publier sur son site internet le jugement visible dès que possible par tous les internautes, et ce pendant un mois.
Cette décision est-elle susceptible d'appel, Emma Sarango, ou bien est-ce que c'est la fin de l'histoire ?
C'est pas forcément la fin de l'histoire, on attend, on est encore devant le Conseil de Prud'homme puisque l'audience vient de se terminer, on attend la réaction évidemment des deux parties, mais les deux parties peuvent faire appel évidemment de cette décision, même si pour l'instant l'exécution provisoire a été décidée par le Conseil de Prud'homme.
Paris donnait donc perdant dans cette affaire et contraint de payer 60 millions d'euros à Kylian Mbappé avant la suite du feuilleton. Merci Emma Sarango, en direct avec les moyens techniques de Benjamin Thuo. Une personne toujours portée disparue à Trévoux, département de l'Ain, au lendemain de l'explosion d'un immeuble. Dans cette commune, 2 jeunes enfants de 3 et 5 ans ont été tués. Le maire de la commune avait évoqué dans un premier temps la piste d'une explosion due au gaz, mais pas de confirmation à ce stade du parquet. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place ce matin. Emmanuel Macron, lui, est à Marseille. Une visite pour faire le point sur le plan Marseille en grand, lancé il y a 4 ans. Près de 5 milliards d'euros d'investissements promis, notamment dans les écoles de la ville. Mais le chef de l'État est surtout attendu sur le thème de la lutte contre le trafic de drogue. Un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi, son frère Amine milite depuis longtemps contre les trafics. Il a lancé ce matin l'idée de créer une convention citoyenne de la lutte contre le narcotrafic, sur le modèle par exemple de celle qui avait eu lieu sur la fin de vie.
J'estime qu'aujourd'hui, dans cette guerre contre le narcotrafic qui est justement menée, mais se trompe d'ennemi, moi je pense que l'ennemi n'est pas le petit jeune qui a en pied d'immeuble en bas des bâtiments dans les cités, qui se fait remplacer, le petit guetteur qui se fait remplacer 10 minutes après avoir été interpellé. J'estime qu'il faut aller chercher les têtes de réseau qui sont à Dubaï, en Thaïlande, qui commanditent des exécutions. J'ai été reçu hier au Parlement européen, j'ai pu échanger avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a mené une résolution. Aujourd'hui, je veux dire, les propositions, les mesures, les solutions, on les a poussées, on les a portées. Maintenant, les décideurs politiques doivent faire avec la voix des habitants, avec la voix associative. C'est aussi un appel aux décideurs, un appel au président de la République, en disant, et si on faisait une convention citoyenne de la lutte contre le narcotrafic pour justement créer un espace de parole et donner la parole à ces gens qui aujourd'hui se taisent.
Amine Kessassi ce matin au téléphone d'ici Provence. Le chef de l'État Emmanuel Macron, qui il y a quelques minutes s'est rendu sur la tombe de son frère, donc Mehdi Kessassi, assassiné il y a un mois à Marseille. Après un mois d'audience, c'est l'heure du réquisitoire au procès du cimentier français Lafarge et de 8 de ses anciens responsables. Ils sont soupçonnés d'avoir payé des groupes djihadistes en Syrie jusqu'en 2014, parmi lesquels le groupe État islamique. Tout cela pour avoir le droit de continuer d'exploiter leur cimenterie de Jabalia dans le nord du pays. Charlotte Piré, vous suivez ce procès pour Inter. Charlotte, les deux procureurs antiterroristes ont porté une lourde charge contre les prévenus ce matin.
Oui, c'est l'histoire d'une faillite totale, lance en préambule le parquet antiterroriste, l'histoire d'entrepreneurs qui se sont fait, ont cédé au chant des sirènes fanatisées. Une histoire dans laquelle, selon le ministère public, Lafarge était au cœur du djihad global et connaissait forcément, même à l'époque, la nature de l'État islamique avec lequel il transigeait. Car dès mai 2013, avant même le début des négociations avec Lafarge, rappelle le ministère public, Daesh met en scène une exécution de chrétiens, puis un attentat kamikaze à 10 km de la cimenterie de Lafarge, l'exécution filmée de 400 prisonniers à 80 km au sud, etc., etc. Et pourtant, Lafarge verse au total 4 millions d'euros à l'État islamique, une somme qui donne le vertige pour le parquet antiterroriste, l'équivalent de 4 000 Kalachnikov et le résultat d'un fonctionnement systémique, dénonce encore le parquet. Lafarge en est venu à considérer les organisations terroristes comme des interlocuteurs commerciaux. Alors oui, poursuivent les procureurs, on peut être une entreprise avec des valeurs et manifestement s'en écarter, on peut être un professionnel brillant et faire le choix de l'illégalité.
Merci Charlotte Piré. Le procès se déroule jusqu'à la fin de la semaine. Le jugement sera rendu l'année prochaine. Nous parlions de la Syrie. C'est un Syrien qui est depuis dimanche le héros de l'Australie. Ahmed Alhamed, c'est son nom, ce vendeur de fruits qui est intervenu pour désarmer l'un des deux terroristes de Sydney dimanche. Cet homme de confession musulmane avait fui son pays en 2007 avec ses deux filles. Il est toujours grièvement blessé. Le Premier ministre australien Anthony Albanese lui a rendu visite aujourd'hui à l'hôpital. Quant à la police australienne, elle a retrouvé deux drapeaux de l'État islamique ainsi que des bombes artisanales dans le véhicule utilisé par les deux tireurs. En Russie, c'est une opération extrêmement spectaculaire que viennent de mener les forces ukrainiennes. Elles l'ont annoncé hier soir, avoir détruit un sous-marin russe qui était stationné dans un port de la mer Noire, et elles expliquent l'avoir fait. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Et c'est là que c'est intéressant, avec un drone sous-marin.
Oui, alors déjà, le fait que les Russes reconnaissent une tentative de sabotage montre qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et si l'on en croit donc les Ukrainiens, des drones Sea Baby, qui sont des drones de surface navale utilisés depuis 2023, ont mis hors service un sous-marin russe de classe Kilo. C'est le nom donné à ces sous-marins par l'OTAN. Il se trouvait dans le port de Novorossiysk, en mer Noire, ses troupes près de la Crimée. Alors les Ukrainiens ont même diffusé des images où l'on voit en effet une explosion dans ce port. Les faits se seraient déroulés donc dans la nuit de dimanche à lundi. Ce qui fait la particularité de cette frappe, c'est son côté inédit. C'est en effet la première fois de l'histoire que des drones endommagent un sous-marin russe. Ce type de sous-marin d'attaque conventionnelle est fabriqué depuis les années 80 et selon les analystes militaires, la Russie en possède à peu près une trentaine. Une première victoire donc contre un sous-marin. Après d'autres premières du même type, on sait que l'Ukraine attaque des navires de la flotte fantôme russe qui transporte le pétrole. On se souvient aussi du navire amiral Moskva, coulé par les Ukrainiens en avril 2022. On estime qu'un tiers de la flotte russe basée en mer Noire a déjà été touché plus ou moins gravement par les Ukrainiens.
Nathanaël Charbonnier. L'eau est à nouveau potable dans l'agglomération de Saint-Louis, département du Haut-Rhin. Le taux de PFAS ou polluants éternels, ces taux sont de nouveau inférieurs à la limite réglementaire. 11 communes étaient concernées par ces restrictions, 8000 habitants. Satisfaction de Jean-Marc Deichmann, le président de Saint-Louis agglomération. Les délais ont été respectés, dit-il, grâce à l'installation de 3 unités de traitement mobile.
Il a fallu installer en urgence, il a fallu surtout avoir les autorisations administratives en urgence, ce qui n'est pas facile, et c'est pour ça que je dis que nous avons fait un travail assez remarquable avec les services de l'État, avec l'ARS, avec notre délégataire Veolia et évidemment avec Saint-Louis Agglomération.
Aujourd'hui, donc, les restrictions sont levées, c'est un soulagement ?
Ah, c'est un vrai soulagement, effectivement, même si l'ensemble de la population n'était pas concernée. C'est toujours un moment extrêmement compliqué, difficile. Avoir de l'eau aux normes, c'est bien la moindre des choses que l'on peut proposer effectivement à nos habitants.
Le président de Saint-Louis, agglomération, micro de Guillaume Schum, ici Alsace. À terme, il faudra tout de même construire une usine de traitement à charbon actif pour traiter l'eau. Coût total 20 millions d'euros. Deux semaines après l'annonce de l'annulation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, près de 600 professionnels de la BD signent aujourd'hui une tribune dans le journal L'Humanité. Elle est intitulée « Nous ne nous tairons pas », c'est son titre. L'appel est lancé par le collectif Girl Code, qui est né du boycott précisément de ce festival, mais qui veut aujourd'hui, Raphaël Ben Abdelmoumen, impulser un vrai changement dans l'industrie de la BD.
Sans nous, pas de livres, rappellent les signataires. Objectif, profiter de la mobilisation autour d'Angoulême pour exiger un nouveau modèle, plus juste et égalitaire. Fanny Michaelis, autrice de bande dessinée et co-rédactrice de La Tribune.
Il paraissait évident de passer un palier et d'exprimer, au-delà du festival, ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la situation économique en général du métier. Il est temps que notre parole soit entendue, prise en compte et notre profession reconnue par la même.
Alors le collectif lance les fêtes interconnectées de la bande dessinée le dernier week-end de janvier à la place du festival d'Angoulême. Elsa Abderrahmani de Girl Code participe à l'organisation d'un des événements parisiens.
C'est pas tout à fait des festivals. On se réunit, on se rencontre autour des sujets qui nous importent, donc des violences sexistes et sexuelles, des discriminations, du féminisme, mais aussi de la précarité.
L'occasion aussi de retrouver un esprit qui s'était un peu perdu à Angoulême.
Est-ce qu'on peut revenir à l'idée d'une fête et d'un vrai festival ? Enfin, de quelque chose où on se sent accueilli, où on se sent bien. Donc la pression, elle n'est pas de se dire on va devoir vendre énormément de livres ou on va devoir faire quelque chose d'immense, d'impressionnant. On n'est pas du tout dans cette idée.
Elle espère qu'une quinzaine d'événements verront le jour en France et en Belgique.
Raphaël Ben Abdelmoumen, sa vie est devenue impossible depuis deux semaines. La vie d'une caissière d'un supermarché Carrefour de Laval, département de la Mayenne. Avec ses collègues, elle a publié il y a deux semaines une vidéo avec un peu de musique qui, assez rapidement, a fait des millions de vues, à tel point que le compte TikTok de ces jeunes gens a dû être banni en raison de l'explosion des faux comptes, à tel point que sa popularité était tellement grande que Carrefour a envoyé des responsables de la communication pour les accompagner. Elle n'a pas souhaité témoigner au micro d'Ici Mayenne, mais Emma Doé nous raconte cette histoire incroyable. Au départ, Emma, une vidéo de 13 secondes.
On y voit trois jeunes caissiers en polaire bleu et badge Carrefour autour du cou danser sur le dernier tube d'Aya Nakamura. Au milieu, une jeune femme blonde, Léonie, devenue le visage viral de TikTok, la directrice de l'hypermarché, Angélique Durchon, ne s'attendait pas du tout à un tel buzz.
On voulait être visible sur Laval et pas faire le buzz dans toute la France et ailleurs.
Elle s'attendait encore moins à devoir mettre un agent de sécurité près de la caisse de Léonie.
Ça s'est passé ce week-end. Ça a commencé vendredi à la sortie des cours, parce que c'est un public très très jeune quand même, qui se sont déplacés à Carrefour pour venir voir les TikTokers de Carrefour Laval. Et nous, on n'est pas prêts pour ça. On a posté un agent de sécurité à sa caisse pour écumer ce nombre de personnes qui venaient pour une photo et déranger Léonie pendant son travail.
L'enseigne, mais aussi tout le centre commercial est témoin du phénomène. C'est le cas de Clara, elle est vendeuse à la boutique Normale.
On est au courant de ça et puis même nous, quand on est dans la galerie, on entend des gens passer dire « on va chercher Léonie, on va chercher Léonie » ou des gens qui rentrent dans le Carrefour et qui crient Léonie en fait.
Mais ça n'arrête pas ces jeunes, ils vont continuer de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, nous annonce Carrefour. Et Léonie sera, s'il le faut, encore une fois accompagné d'un agent de sécurité à la caisse.
Un reportage ici Mayenne, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, Sébastien Martin, le ministre chargé de l'Industrie, avec nous. Nous lui demandons ce qu'il pense de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'automobile, annoncée cet après-midi, a priori fini le 100% électrique d'ici 2035. Alors à quoi bon tous ces investissements dans les batteries, notamment 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous êtes déjà nombreux, je le vois. 13h45, notre feuilleton, nous sommes avec ces Français d'origine espagnole, très nombreux à demander la nationalité de leurs parents ou de leurs grands-parents. On retourne dans le département des Pyrénées-Orientales. Et puis 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de Melvin dans le Finistère à Antony dans les Hauts-de-Seine, en passant par Ronchin dans le Nord, je vous raconte, Jérôme, ces communes qui vendent leurs biens aux gens, aux enchères ou en vie de mairie.
en vie de mairie.
En vie de mairie, exactement.
Nous les découvrons avec vous, Frédéric, une comédienne.
Oui, pas de vie de mairie, la comédienne Christelle Tual, qu'on peut voir jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre 14 à Paris, dans une pièce de Musset. Et avec elle, nous écouterons La Manne, une chanson de Christophe.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte Jacques Borel, l'homme qui a fait entrer la restauration dans l'ère industrielle. Une certaine idée du capitalisme à la fourchette, très typée de Trente Glorieuses.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif.
Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients.
Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence.
Incarnée par Juliette Armanet, Cécile est une star. Mais pas n'importe quelle star. Elle a gagné un grand concours culinaire dont tout le monde parle. Dans le film Partir un jour, Cécile doit retourner dans son village d'enfance suite à un drame familial. Elle va y recroiser son amour de jeunesse. Quand tout à coup, eh bien tout à coup, le film Partir un jour est déjà sur Canal+. Eh oui, déjà.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
La Corse reste sous surveillance ?
Oui, car le pourtour méditerranéen reste proche de la dépression qui génère de fortes précipitations. Les averses orageuses d'hier ont produit 200 mm de pluie en 24 heures, mais 40 à 60 mm peuvent encore tomber aujourd'hui, notamment sur la façade est de l'île. Météo France garde l'île de Beauté en vigilance jaune, mais un jaune plutôt foncé. Et même si la situation tend à l'accalmie dans le sud-est, le risque de bonnes averses orageuses est toujours présent sur les Cévennes et les chutes de neige restent importantes sur les crêtes du sud des Alpes dès 1500 mètres. Le vent souffle aussi toujours sur l'axe méditerranéen, mais il faiblit en cours de journée 50-60 km par heure. Partout ailleurs, les nuages sont encore présents, voire tenaces sur l'Alsace, mais le temps reste sec. Les éclaircies feront même leur retour sur la pointe bretonne et sur le nord-ouest.
Et toujours de la douceur.
12 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 18 au sud, c'est 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Gros contraste avec l'extrême est, Alsace, Moselle et près des Alpes, où les valeurs ne dépasseront pas les 4 à 9 degrés. Il fait actuellement 0 degré à Colmar, mais 17,6 à Brive-la-Roche en Corrèze. Il fera 13 degrés à Paris, 11 à Quimper.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14, ministre délégué chargé de l'industrie avec nous dans cette journée très importante pour l'automobile en France et en Europe, puisque la Commission européenne va rendre cet après-midi ses arbitrages pour la bascule vers le tout électrique. Quelques chiffres pour comprendre les enjeux. 1 million de véhicules neufs, c'était la production française l'an dernier, chiffre divisé par 3 en 6 ans. On produit donc de moins en moins de voitures. On en achète aussi de moins en moins, mais dans ce gâteau qui se réduit, la part de l'électrique augmente. C'était un quart des ventes en novembre pour la première fois, grâce aux aides de l'État. Marché dominé par l'hybride. L'hybride, c'est une vente sur deux. Le prix moyen d'une voiture neuve est passé en 6 ans de 26 000 à 37 000 euros. J'ajoute que tout cela a des conséquences économiques. 800 000, c'est le nombre de salariés de la filière en France, avec un nombre d'usines qui a été divisé par 2 en 30 ans. On a le tableau. Vous êtes nombreux à nous appeler, 01 45 24 7000. Vous passez aussi via l'application Radio France et l'onglet Réagir pour être avec nous. On attend les annonces, mais a priori, il n'y a pas beaucoup de doutes, Sébastien Martin. L'Europe va renoncer au tout électrique en 2035. Est-ce que c'est un échec annoncé pour la France ?
Non, c'est un ajustement de la stratégie. Parce que je ne veux pas annoncer ce qui sera annoncé par la Commission, mais la Commission, elle prévoit quand même de garder un cap sur l'électrification et de manière extrêmement importante. Parce que le cap, c'était 100% en 2035. On voit aujourd'hui quel est l'état du marché, quelles sont les perspectives quand même d'ici 10 ans. Et on voit que 100% sera sans doute difficile à atteindre au rythme auquel ça va dans le marché. Il y a des chiffres qui circulent plutôt autour de 90%. Donc, on ne peut pas dire qu'en passant de 100% à 90%, c'est la fin de l'électrique. Au contraire, je pense que c'est une adaptation peut-être pragmatique à la possibilité d'avoir un marché électrique extrêmement important. Et la France investit massivement. Et moi, je tiens à rendre hommage à nos constructeurs français qui ont fait ce choix de l'électrique. Je rappelle que le véhicule électrique le plus vendu aujourd'hui en France, c'est la Renault 5 électrique.
Est-ce que Renault ne va pas être puni aujourd'hui par ce choix qui a fait beaucoup d'investissements pour l'électrique ?
Non, parce que...
Ah bon, on a voulu aller très vite, voilà comment on est récompensé.
Non, mais parce que si le message qui passait avait été « Bon, finalement, on ne change rien, on ne se donne plus un objectif extrêmement ambitieux en matière d'électrification », je pourrais être d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça. Honnêtement, si on passe de 100% à 90% en 2035, moyennant en plus le fait qu'on utilise de l'acier vert, qu'on utilise en parallèle de ça des biocarburants, je pense que pour les filières qui se construisent, moi j'étais la semaine dernière à l'inauguration de l'usine Vercors, nous en sommes à notre troisième gigafactory de batteries en France, dans la région des Hauts-de-France. Nous allons aussi avoir une joint venture, là, notamment portée par Orano, pour pouvoir produire une partie de ce qui est essentiel, à l'intérieur des batteries. Donc,
est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Sébastien Martin, d'accélérer sur ces productions de batteries, ce que vous appelez ces gigafactories, et dans le même temps, une semaine après, d'entendre cet après-midi Stéphane Séjourné, le commissaire européen, dire en fait, on va ralentir, on va aller un peu moins vite que c'était prévu.
Bon, honnêtement, on baisse la vitesse maxi de 10 km/h. C'est pas non plus, un stop ou un gros coup de frein. C'est un ajustement par rapport à ce qui est la réalité aujourd'hui d'un marché. Vous l'avez dit, aujourd'hui en France, on a 25%. Il y a des pays d'ailleurs, c'est assez amusant parce que vous voyez, on dit.
Pourquoi, mais juste là-dessus, pourquoi la réalité d'un marché ? Pourquoi ça ne prend pas ? Pourquoi c'est pas allé aussi vite que ce qu'on pensait il y a quelques années ?
Attendez.
Mais il y a quelques années, on pensait pouvoir atteindre cet objectif.
On est dans un marché automobile qui globalement, a ralenti. On est passé en 2019, on vendait en France un peu plus de presque 2,5 millions de véhicules et aujourd'hui on vend 1,6 million, 1,7 million véhicules. On a une part à l'intérieur de ça du véhicule électrique et du véhicule électrique français. Je veux le redire, parce que j'entends parfois le véhicule électrique, c'est le cheval de Troie de la Chine. Mais en réalité, la France a mis en place des mesures de protection avec l'Europe et on est passé, grâce à ces mesures de protection, de 45% de véhicules électriques chinois en 2023 à 15% de véhicules chinois électriques aujourd'hui. Et sur les 10 véhicules électriques les plus vendus en France, 7 sont des véhicules français. Donc il y a un savoir-faire français, il y a une filière française qui se met en place, il y a un objectif qui s'adapte à la réalité aujourd'hui du marché qui est ce qu'il est, vous l'avez dit, les prix des véhicules et pas d'ailleurs que des électriques parce qu'en 2019, on vendait 1,2% de véhicules électriques. Donc si tout était la faute de l'électrique, alors que le marché a commencé à baisser en 2019, alors que l'électrique représentait que 1,2%, ça se saurait. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu la crise des semi-conducteurs juste après 2020 qui a augmenté le prix des véhicules. Il y a des normes de sécurité qui augmentent le prix des véhicules. Il faut qu'on travaille sur tout ça avec les constructeurs, notamment sur les plus petits véhicules aussi.
On va y venir, mais d'abord, est-ce que c'est pas l'Allemagne qui tout simplement a gain de cause les constructeurs allemands qui font pression depuis des mois.
Oui, peut-être, mais enfin, si l'Allemagne avait gain de cause, on ne serait pas passé de 100 à 90, excusez-moi, parce que j'ai entendu certains discours, on voulait beaucoup plus loin que cela. Donc aujourd'hui, on est aussi dans une exigence qu'a mis la France, c'est-à-dire d'avoir des assouplissements à condition de pouvoir poser le principe de la préférence européenne et du contenu local. Et je sais que dans les déclarations qui vont être faites tout à l'heure, il y aura aussi le principe de la préférence européenne, du contenu local, ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce que vous avez obtenu, Sébastien
Ça veut
Martin,
dire que à l'intérieur...
Les négociations durent depuis des mois.
Ça veut dire qu'à l'intérieur des véhicules, et particulièrement d'ailleurs des véhicules électriques, qui vont être produits dans les années qui viennent, en France et en Europe, on a une exigence de contenu local. Parce que moi, je ne me résous pas à imaginer...
Dans quelle proportion ?
Eh bien, écoutez, nous, on a posé un principe qu'on voulait 75%. Je vais voir ce que va annoncer la Commission. Si la Commission n'est pas à ce niveau-là, après, il y a encore des conseils européens. Il y a encore un débat au Parlement européen.
75% du contenu aujourd'hui, quand d'une vous faites un véhicule fabriqué
aujourd'hui, quand
localement,
vous faites
en
un
valeur.
Véhicule, aujourd'hui, vous prenez un véhicule fabriqué en Europe. De quelque marque que ce soit, d'un constructeur allemand, français, il a à l'intérieur 75% de contenu local. C'est-à-dire les composants qui sont à l'intérieur de ce véhicule sont à 75% des composants européens. Ben nous nous considérons...
De marques européennes ou fabriquées en Europe ?
Non, non, de marques et de fabriquées en Europe. Par des sous-traitants européens qui fabriquent ici un écrou, là un volant, là je ne sais pas quoi, un élément de la voiture. Donc, ça veut dire les trois quarts. Ben nous, on estime qu'on doit garder cette ambition de trois quarts de contenu local à l'intérieur d'un véhicule. C'est défendre le Made in Europe et le Made in France.
Donc
c'est ça que ça veut dire.
Vous attendez que cet après-midi, ça soit dans les conditions posées ?
Que ça soit effectivement dans l'expression qui sera faite par la Commission, que cette notion de contenu local que nous défendons, eh bien, elle soit au cœur aussi de l'expression de la Commission.
Rémi est avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous nous appelez de Rouen, nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour la France Inter. Alors ma question, je voudrais connaître et savoir quand le gouvernement va mettre en place des mesures fortes d'aide à l'achat de véhicules électriques et se positionner en Europe comme leader sur le sujet de la décarbonation.
Il y a déjà des aides, Rémi, qui existent.
Elles sont extrêmement faibles compte tenu du prix des véhicules électriques aujourd'hui. L'aide maximum, je crois que c'est de 4 000 euros sur un véhicule qui en vaut 40 ou 45 000. Mmh. Voilà. Mmh.
Ben, merci Rémi pour cette question. Sébastien Martin.
Oui, merci à Rémi pour cette question parce que ça me permet dans ce cas-là de préciser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, effectivement, on peut avoir une aide jusqu'à 4 200 euros. Mais Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances, a annoncé il y a quelques semaines que pour 2026... nous voulons passer cette aide de 4 200 euros à 5 700 euros. Donc 5 700 euros d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique, c'est quand même tout, sauf négligeable. J'ajoute à cela que nous avons connu là, pendant l'été et à la rentrée, le fameux leasing social, qui fait que vous pouvez louer un véhicule électrique aujourd'hui selon certaines conditions, hein, mais jusqu'à moins de 100 euros par mois, et qui a lui aussi boosté l'achat et la vente de véhicules électriques dans notre pays. C'est ce qui explique d'ailleurs ces bons résultats, 25%. Donc, vous savez, je pense qu'en France, on a effectivement ce besoin d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de psychologie. On sait que quand les gens passent à l'électrique, 90% d'entre eux restent à l'électrique et ne reviennent pas au thermique. J'étais ce matin avec ma collègue ministre norvégienne de l'industrie. Excusez-moi, on dit tout le temps, les véhicules électriques, quand il fait froid, ça ne marche pas, etc. En Norvège, je pense qu'il fait plus froid qu'en France. En Norvège, aujourd'hui, il se vend 90% de véhicules électriques. Donc,
avec des aides publiques ou pas ?
Je pense qu'il doit y avoir quelques soutiens, mais à peu près de la même nature que la nôtre. Mais je pense qu'ils ont passé la barrière psychologique, si vous voulez. Aujourd'hui, on a encore cette barrière psychologique, alors que le véhicule électrique, ça fonctionne, et qu'il faut bien sûr adapter sa manière de se déplacer. Mais si en Norvège, on arrive à faire tourner des véhicules électriques alors qu'il fait des moins 20, des moins 30, je pense qu'en France, on va y arriver.
Barrière psychologique, moi je veux bien Sébastien Martin, mais quand les prix moyens sont passés de 26 à 37 000 euros, elle n'est pas que psychologique. Alors, la barrière. Le DG de Stellantis, cité dans le journal Le Monde la semaine dernière, en 2019, il y avait 49 modèles de voitures en dessous de 15 000 euros. 49 coûtaient moins de 15 000 euros. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul.
Est-ce que c'est la faute du véhicule électrique ? Je ne le crois pas, puisque le véhicule électrique...
Je ne sais pas, mais est-ce que demain, on pourra acheter un véhicule électrique ? Est-ce que ça peut être un véhicule populaire, sans argent public pour le subventionner ?
Alors, nous travaillons avec les constructeurs, effectivement, sur arriver à déployer, et même avec un soutien de l'Union européenne, pour arriver à déployer demain un petit véhicule électrique. Qu'est-ce qu'il y a déclencher cette hausse des prix ? Vous avez eu, vous en souvenez sans doute, au lendemain du Covid, une crise des semi-conducteurs. Et il y a eu derrière une inflation des prix des semi-conducteurs. Il y a eu aussi un phénomène d'inflation. Je rappelle que le phénomène d'inflation, il a été lié à M. Poutine, qui a envahi l'Ukraine, qui a fait exploser les coûts de l'énergie, qui a fait exploser l'inflation en France et en Europe. Vous avez eu aussi certains constructeurs qui sont allés vers du plus haut de gamme. Vous avez aussi certains équipements de sécurité qui, avant 2019-2020, étaient optionnels, sont devenus désormais obligatoires. Certains ont renchéri le coût du véhicule entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, c'est tout un tas
Est-ce
de sujets.
Est-ce qu'on peut faire marche arrière lesquels... Comment
oui,
on fait baisser
on nous sommes
le,
en train de
prix.
Regarder, avec la Commission européenne, il y a 6 textes de simplification qui arrivent, également avec la Commission européenne. Comment est-ce que l'on peut simplifier un certain nombre
Ça
de choses
Ça veut dire moins de normes
Simplifier un certain nombre de normes et d'équipements aussi dans les véhicules pour faire rebaisser, parce que je ne suis pas sûr que franchement...
Vous avez un
aujourd'hui,
exemple
aujourd'hui, vous avez dans tous les véhicules, vous savez, un système pour vous empêcher de sortir de votre ligne. de votre ligne de conduite.
Qui vous ramène automatiquement.
Bon, moi, je vois que ça enquiquine un peu tout le monde, ce genre de système. Bon, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça ne devrait pas être une option, par exemple? Ça, ce sont des systèmes qui, à chaque fois, renchérissent le coût des véhicules. Et donc, on est en train de travailler avec la Commission pour assouplir un peu tout ça.
Ça veut dire autour de quel prix? Quel est l'objectif de prix?
L'objectif, c'est effectivement de refaire des véhicules en Europe qui seraient en dessous des 20 000 euros. Vous avez vu que c'est l'objectif avec la Twingo. Elle est faite en Slovénie. Elle n'est pas faite en France, mais elle est faite en Europe, en Slovénie. D'avoir un véhicule en dessous de 20 000 euros. Mais je crois que si on n'est pas très exigeant aussi sur cette histoire que défend la France, de préférence européenne, de contenu local à l'intérieur, eh bien on aura peut-être des véhicules moins chers, mais si c'est pour avoir que du chinois dedans, moi ça ne m'intéresse pas.
On est d'accord que si on n'arrive pas à faire baisser les prix, il n'y aura même pas 90% d'électrique en 2035.
On a une question, effectivement.
Il y aura 0%, personne ne pourra se les payer, ces voitures.
Il y a une question sur les tarifs des véhicules, même si une fois encore, je le redis, c'est pas que l'électrique qui a abouti à la situation que nous connaissons. La Zoé marchait, par exemple, très bien et était un véhicule plus accessible que les derniers véhicules qui sortent aujourd'hui. Donc, il y a cette question des normes, de fabriquer un petit véhicule, de travailler pour être plus compétitif sur ce petit véhicule et sur d'autres véhicules. Et puis, il y a l'effet de marché et de masse. Plus il y aura aussi de véhicules électriques qui seront achetés, moins leur prix sera élevé.
Jonathan est avec nous de Perpignan. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, auditeurs de France Inter. Ma question est simple, je rebondis sur vos termes, monsieur le ministre. Lorsqu'on aura dépassé le seuil psychologique, comme vous dites, et que une grande partie du parc français sera un parc électrique, que va-t-il advenir des propriétaires de voitures thermiques? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des pièces pour leurs voitures? Est-ce qu'ils vont pouvoir rouler avec ces véhicules partout en France? Et est-ce que surtout ils vont pouvoir trouver des carburants issus d'énergie fossile pour continuer à faire rouler leurs voitures? Moi, je suis un amateur de voitures à moteur thermique. C'est pour ça que je pose cette question. Je pense qu'il y a des millions d'amateurs en France de ce point de vue-là.
Merci Jonathan pour cette question, Sébastien Martin.
Oui, monsieur. Il ne s'agit pas d'interdire le véhicule thermique. Il s'agit de dire qu'à partir de 2035, on commercialise moins de véhicules thermiques. C'est ça que ça veut dire. Donc, après 2035, vous pourrez toujours continuer à rouler avec votre véhicule thermique. Si vous êtes un passionné de voiture, quelle qu'elle soit, et que c'est un moteur thermique, vous pourrez toujours continuer à le faire. Simplement, la gamme de véhicules proposée par les constructeurs fera une place au thermique qui sera beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a un travail qui se fait sur les biocarburants, sur les e-fuel notamment, pour avoir des carburants aujourd'hui qui continueront à fonctionner dans des moteurs thermiques, mais en étant plus propres, parce que l'enjeu quand même, c'est d'être moins dépendant de pays qui ne sont pas toujours amicaux et qui sont des pays producteurs de pétrole, alors qu'avec l'électrique, c'est le nucléaire français et c'est notre souveraineté.
Merci Sébastien Martin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, d'avoir répondu également directement à nos auditeurs, ministre délégué chargé de l'industrie. 13h46 sur Inter. Une semaine dans la vie de Français d'origine espagnole. Leurs parents ou grands-parents ont quitté leur pays en 1939, 500 000 personnes au total, dont 200 000 ont été parquées dans des camps à Argelès, Saint-Cyprien ou encore au Barcarès, département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, leurs descendants peuvent prétendre à la nationalité espagnole. Démarche qu'a entreprise Sonia Marzo, 74 ans, tout comme ses filles et 4 de ses petits-enfants. Sonia, nous la retrouvons à Argelès, elle qui a longtemps vécu à Paris.
Il a fallu que je vienne à Argelès pour que je sois rattrapée par l'histoire espagnole, en fait. Et là, quand j'ai vu qu'à Argelès, quand je suis arrivée, on ne parlait pas du tout du camp d'Argelès, que le cimetière des Espagnols, il y avait des hautes herbes comme ça, étaient abandonnées, ça m'a scandalisée. Et donc, quand j'ai fait la bibliothèque, on a fait une exposition avec les vieux de la guerre d'Espagne, et il y a très peu de gens d'Argelès qui sont venus, très très peu. La mémoire de la ville d'Argelès est venue en 99. Là, ils ont pris acte. Et on sait qu'il faut 60 ans pour la mémoire. Pour la guerre d'Algérie, ça a été 60 ans. Pour la guerre d'Espagne, c'est 60 ans aussi. Alors, mon père, on a jeté les cendres en haut du Canigou. Et ma mère, on a jeté les cendres sur le col de Jo, parce que ma mère, c'est le monde, en terre catalane. Bonjour, je m'appelle Sonia Marzo. Mon père Léo Marzo et mon grand-père Francisco Marzo, voilà, ils sont de Badalona, à côté de Barcelone, et ils ont passé la frontière au Pertus. Ils sont arrivés au camp d'Argelès le 5 février, juste quand ça venait d'ouvrir, où il n'y avait donc rien à ce moment-là sur la plage. Et mon père, il était instituteur de la République, donc il arrivait avec les instituteurs. Il a rencontré son père, qui était lui franc-maçon socialiste, qui était avec les francs-maçons. Et finalement, comme mon grand-père était médecin, il a fait médecin dans le camp. Ils ont fait le camp d'Agde, Récébédou, Bram, Noé. Enfin, ils ont fait énormément de camps où toujours mon grand-père faisait office de médecin et mon père l'aidait. Mais il faisait aussi, mon père, il aidait un peu à apprendre le français, ce qu'il savait le français. Parce que quand on est enfermé dans des camps, on a beaucoup de temps. Donc il faisait un peu d'éducation, voilà, enfin, pour apprendre la langue. Quoi. Cette loi qui est passée pour avoir la nationalité, tout de suite je l'ai faite, un peu en référence à mon père et mon grand-père, mais pas que. Pour moi c'est une réparation, c'est une reconnaissance en fait, parce qu'il y a eu un coup d'État, on représente la légalité quand même, une république. Enfin voilà, c'est toujours pas la république, c'est vrai, mais enfin il y a des progrès qui sont faits aujourd'hui avec Pedro Sanchez qui enlève toutes les références au franquisme, qui demande on enlève tous les monuments. Je trouve que ça va dans le bon sens, c'est pas gagné. Je sais bien qu'il y a un mouvement d'extrême droite qui ressurgit un peu partout, en Europe et en Espagne à Vox, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc je me retrouve là aussi quand même. C'est vrai que moi je ne parle pas espagnol, ma mère est française. Elle a subi l'exode des juifs français, parisiens, qui ont été renvoyés au fait qu'ils étaient d'origine juive d'Alsace-Lorraine au départ. Ma mère a épousé le républicain espagnol et mon père a épousé la petite juive résistante. Voilà, en fait j'ai une histoire qui est liée à la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire quoi. Alors c'est vrai que dans l'association, nous sommes que des vieux, retraités, c'est vrai. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent avec leur classe. On reçoit énormément de classes. Alors de France et d'ailleurs et d'Espagne, beaucoup, beaucoup. Et même en février, quand nous faisons nos journées de février, il y a 600 jeunes de l'Emporda qui viennent. On témoigne chacun dans nos disponibilités. Nous témoignons sur l'histoire de nos parents pour leur dire soyez vigilants parce que ça rôde. L'intolérance, le racisme rôde. On n'est pas des historiens, on parle de nos familles. Il faut mettre les choses à leur place aussi. Quoi.
Feuilleton signé, Cécilia Arbona, réalisation Vincent Godard. Troisième épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de vie de mairie.
Et je vous emmène, Jérôme, à Melvin dans le Finistère, hein, où il y en a eu un fin novembre, hein, dans cette commune de 3400 habitants. C'est le deuxième vide de mairie qu'elle organise, à l'exemple d'un vide-grenier ou d'un vide-maison. La municipalité a mis en vente plusieurs centaines de biens communaux non utilisés et stockés dans des locaux de la municipalité, lit-on dans Ouest France. Alors, on y trouvait beaucoup de mobilier scolaire ancien, comme des chaises, petites et grandes, à 2 euros, ou des tables à 4 euros, mais aussi des jeux ou du matériel pédagogique ou encore des vestiaires en métal, des fauteuils, des porte-manteaux et même, Jérôme, un aquarium. L'objectif était triple, vider les espaces occupés, redonner vie à ces objets et récolter un peu d'argent pour le CCAS et l'association locale des jeunes. Bilan de la demi-journée, 900 euros de recettes, m'a indiqué hier soir Émilie Talandier, la directrice générale des services de Melvin.
Et les communes sont nombreuses à vendre leurs biens.
Partout en France, plus Erlin dans le Morbihan cédera cet hiver des pièces de petit mobilier de 5 à 30 euros, surtout pour vider des locaux. Mais ça remplit aussi les caisses, Jérôme, car les temps sont durs pour les finances locales. Et ces ventes peuvent rapporter gros. Depuis plusieurs années, la ville d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, cède ses équipements aux enchères via le site Moniteur des ventes de Drouot. Elle a déjà gagné 45 000 euros, rapporte Actu Paris. Exemple de vente en cours, des souffleurs à feuilles à partir de 24 euros ou un groupe électrogène mis à prix à 80 euros.
Et parfois, les montants sont encore plus élevés.
Quand on passe du mobilier à l'immobilier, la mairie de Luc-sur-Mer dans le Calvados vient de vendre une ancienne salle de danse de 153 mètres carrés qu'elle n'utilisait plus. Après 75 enchères, elle a été adjugée à 202 000 euros. Justification du conseil municipal, notre objectif est de rationaliser la gestion du patrimoine et dégager de nouvelles belle marge de manœuvre financière et la commune y prend goût. En 2021, elle avait cédé son presbytère, 30% de plus que la valeur estimée, et réfléchit à l'avenir d'autres bâtiments.
Il y a même des sites qui sont spécialisés dans ces ventes des collectivités.
Et oui, la plateforme Agora Store, créée en 2005 en partenariat avec la ville de Lyon, qui souhaitait alors se débarrasser de ses tondeuses à gazon. Voici quelques exemples repérés hier soir. Jérôme, la commune de Saint-Mexant-l'École dans les Deux-Sèvres y vend du bois de chauffe à 60 euros les trois stères, celle de Ronchin dans le Nord, une machine à coudre Singer à 200 euros, celle de Blanquefort en Gironde, des cartouches d'encre à 10 euros. En 2024, plus de 400 collectivités et organismes publics se sont adressés à cette plateforme pour vendre leurs biens immobiliers, nous dit France 3. À 14h, dans quelques minutes, il débute d'ailleurs la vente par la mairie de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne d'un centre de loisirs désaffecté. Il est situé sur une parcelle de 4,5 hectares à Hyères dans le Var, sa mise à prix 1,5 million d'euros.
Ah oui, c'était le centre de loisirs de Fontenay-sous-Bois, mais dans le Var.
Voilà.
Il y a un autre acteur qui vient de naître, Cyril, c'est une sorte de bon coin des mairies.
Oui, le site internet labonnemairie.fr a été lancé en juin 2025, porté par l'association toulousaine Aux âmes citoyens. Il met en relation les collectivités qui peuvent donner, échanger ou revendre le matériel dont elles n'ont plus l'utilité. L'adhésion est gratuite pour les communes acheteuses et pour celles de moins de 2000 euros. La ville de Berneuil, Jérôme, 300 âmes en Charente, y vend actuellement 12 buses en ciment de 2,4 mètres de long à 400 euros pièce.
Ce sont bien des buses en ciment.
Oui.
Merci Cyril Petit du journal Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson, c'est une comédienne. Christelle Tual, que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric.
Christelle Tual, en ce moment à l'affiche du théâtre 14 à Paris, dans « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée », pièce d'Alfred de Musset, dans laquelle elle partage la scène avec Thibaut de Montalembert. Et c'est d'un titre de Christophe qu'elle a souhaité parler, artiste qui était également un ami. Ils s'étaient rencontrés au début des années 2000.
Je dansais dans des jardins au Festival d'Avignon. Et il m'avait dit, je ne dansais pas toute seule, tout le monde dansait, il m'avait dit, une femme, quand elle danse vraiment, elle se passe toujours la main dans les cheveux. Et puis il était parti, sauf qu'il ne savait pas que j'avais quasiment tous ses albums dans mon téléphone, j'étais une grande fan de lui. Et une amitié s'est nouée de loin en loin, et voilà, on est resté en contact jusqu'à ce qu'il meure.
C'est un chanteur que vous avez écouté toute jeune ?
Non. J'ai commencé à l'écouter, j'avais 35 ans, suite à un chagrin d'amour. Et il m'a après accompagné, et ça m'a toujours aidé à traverser le monde et l'amour. Après, je ne peux pas dire non plus que je connaissais très bien.
Mais vous connaissiez cet appartement ?
Oui.
Où il vivait essentiellement la nuit ?
Ben oui, avec ses machines, ce grand piano qui prenait toute la place. Et la cuisine aussi. On buvait du thé.
Elle veut des grands palais.
Elle veut des grands palais de marbre rose.
Plein d'escaliers pour ses nuits blanches.
Plein d'escaliers pour ses nuits blanches.
Des jardins suspendus au-dessus.
Des jardins suspendus au-dessus du temps.
Où se rejoindraient les amants. Les amants. Elle veut l'amour pur et sans faille.
Elle veut l'amour pur et sans faille.
Dans le profond
des horizons lointains.
Des horizons lointains.
Mordre au citron, de l'idéal.
De l'idéal.
Elle veut le début sans la fin.
Elle veut le début sans la fin.
Alors, Frédéric, cette chanson a pour titre « La manne ». Elle est sortie en 2001.
Et c'est tout d'abord son texte qui bouleverse Christelle Tual.
Il y a quelque chose dans l'écriture sur les jardins suspendus, ce cœur griffé de satin rouge, mordre dans le citron de l'idéal. Tout cet imaginaire-là me laisse en vie. Et je l'ai écouté. Elle m'a touchée beaucoup, et puis je n'ai jamais cessé d'écouter. Peut-être que je l'écoute une fois par semaine depuis 10 ans. Et puis la manne, je me suis toujours demandé pourquoi la garçon.
Là, c'est un portrait de femme.
Oui, de femme forte, mais aussi fragile.
Et vous avez l'impression de retrouver un peu de vous dans ce portrait ?
Sans doute que ça devait faire écho, ça devait parler de moi, oui. Ou ça doit parler de moi.
Elle veut des robes changées de peau, un cœur griffé en satin rouge. Chaque fois repartir à zéro. Elle veut la fête et que ça bouge.
Est-ce que vous avez l'impression que cette chanson, quand vous l'écoutez, elle vous ramène à vous ?
Elle me ramène à moi, oui. Oui, parce qu'il y a vraiment cette quête d'absolu, d'amour idéal. Puis il y a des gens qui le cherchent plus que d'autres. Mais je sais que c'est plus du tout à la mode.
Vous pensez l'avoir connu à combien de reprises, l'amour absolu ?
Je pense 3 fois, ce qui est beaucoup pour une petite vie. Mais c'est aussi une capacité à se mettre en disponibilité de ça. C'est ne pas avoir peur de souffrir, voire de mourir. Mais je ne vois pas le plaisir d'être en vie sans faire ce voyage-là ou oser essayer de le faire.
Est-ce que ça veut dire que puisque vous l'avez connu à 3 reprises, aujourd'hui encore, vous le cherchez une 4e fois, cet
oui.
amour absolu ?
Je le chercherai jusqu'à en mourir, jusqu'à la fin. C'est mon aventure à moi.
Et vous menez tous en bateau, tracé dans le bleu, elle veut quelque chose de nouveau.
La manne, Christophe, c'était donc Frédéric, le choix de Christelle Tual.
Christelle Tual, que vous pouvez retrouver jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre 14 à Paris. Dans la pièce de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan et le temps des cathédrales dans un instant.